VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mardi 2 janvier 2018, en direct de Washington. Eric Manirakiza et Michel Joseph, bienvenue dans cette édition. D'abord, les principaux titres.
14 morts au Nigeria, des hommes armés ont tiré sur des fidèles à Port Harcourt.
Un projet de loi sur l'entente nationale au Mali.
J'avoue que personnellement, moi, j'ai été surpris de voir le président de la République parler de ce projet de loi sur l'entente nationale.
La classe politique et les associations de la société civile souhaitent une large concertation avant l'adoption.
Miss Ronde régionale à Bukavu en RDC.
Il faudrait que les communautés arrêtent avec certaines cultures rétrogrades vis-à-vis de l'image de la femme ronde. Redorons l'image de la femme ronde. C'est une femme belle, elle est intelligente et elle est battante.
Il faut avoir au moins 90 kilos pour être éligible.
En Iran, les autorités mettent en garde les manifestants qui protestent depuis jeudi contre le gouvernement.
Pour l'instant, le journal.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le gouvernement de Kinshasa et les forces nationales de sécurité à faire preuve de retenue et à respecter les droits du peuple congolais aux libertés d'expression et de manifester pacifiquement. Dimanche, 8 personnes ont été tuées en marge des manifestations de catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Une centaine d'autres ont été arrêtés.
Monsieur Kabila est resté muet sur son avenir politique dans ses vœux aux Congolais. Il s'en est pris aux manifestants, appelant à la vigilance pour barrer la route à tous ceux qui seraient tentés de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu.
Sur la RDC toujours, la secrétaire générale de la francophonie a dénoncé des attaques inqualifiables et désolantes contre des fidèles et des manifestants. Elle a exhorté les autorités de ce pays à garantir le droit de manifester.
Au Tchad, les élections législatives reportées pendant des années auront finalement lieu en 2018. D'après le président Idriss Déby Itno, il a annoncé dimanche lors de son discours de Nouvel An. Pour le politologue Évariste Ngarlem-Holdé, enseignant à l'université de N'Djamena, cette annonce est une bonne nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle pour cette année qui commence, simplement parce que les Tchadiens avaient réclamé cela depuis l'expiration donc du mandat de l'actuelle législature. Mais il faut également dire qu'il y a beaucoup de pressions qui ont été faites de part et d'autre, notamment par la France et puis par l'Organisation internationale de la francophonie. Et il a fallu que le gouvernement tchadien, en l'occurrence le chef de l'État, puisse se résoudre à convoquer donc le corps électoral pour les élections législatives. Donc il y a d'abord la volonté des Tchadiens donc à quitter cette situation de semi-crise qu'on vivait depuis la fin du mandat actuel des députés. Il fallait sortir de cette situation et le fait de décider que les députés puissent renouveler leur mandat est une très bonne chose. Et puis, n'oublions pas les pressions qui ont été exercées, ça et là, sur le gouvernement.
Le politologue Évariste Ngarlem-Holdé, enseignant à l'université de N'Djamena.
Au Nigeria, des hommes armés ont tué 14 fidèles revenant d'une messe de minuit célébrée à Port Harcourt, dans le sud du Nigeria. C'était dans la nuit de dimanche à lundi, n'est-ce pas Jean-Roger Bion?
La fusillade a eu lieu dans la ville d'Omoku, grand centre pétrolier et capitale de l'État de Rivers. Les hommes armés ont ouvert le feu sur un groupe de fidèles vers minuit et demi. 14 personnes sont mortes sur les lieux et 12 autres blessés ont été transportés à l'hôpital et reçoivent des soins. Le responsable de la communication de la police de l'État de Rivers, Nandi Omoni, a précisé que le nombre de victimes n'était pas encore confirmé officiellement. Il a indiqué qu'une chasse à l'homme a été lancée pour arrêter et juger les auteurs de ce crime. L'État de Rivers connaît une pauvreté malgré les richesses générées par la production de pétrole. Plusieurs bandes criminelles puissantes se livrent souvent à de violentes guerres pour le contrôle des territoires.
Deux chrétiens égyptiens ont été tués dans une attaque armée pendant la soirée du Nouvel An près du Caire. Les victimes étaient des amis du propriétaire d'un magasin de boissons situé dans un quartier à l'ouest de la capitale égyptienne. Les enquêtes sont en cours, notamment l'examen des caméras de surveillance et l'interrogation de témoins.
La vente d'alcool, Michel, est étroitement encadrée en Égypte. Seuls certains magasins spécialisés ainsi que quelques débits de boissons sont autorisés à le distribuer au public.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont enregistré un bilan encourageant sur les violences en ce début d'année. Le taux de criminalité a nettement baissé à New York, Chicago et Washington en 2017, malgré quelques affaires particulièrement sanglantes. Des détails avec Bagassi Koura.
Il y a eu 330 homicides volontaires en 2017 à New York contre 334 l'année précédente selon les calculs du New York Times. C'est le chiffre le plus bas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en chute spectaculaire par rapport au pic de 2245 morts enregistrés en 1990. La criminalité a baissé dans son ensemble à New York, du nombre de viols à celui des vols de voitures, note le quotidien américain. Chicago, qui a subi son année la plus meurtrière depuis 20 ans en 2016, avec 754 homicides, a vu ce chiffre baisser de 16% en 2017 à 650 meurtres, rapporte le Chicago Tribune. La région de Washington a, elle, enregistré 259 homicides en 2017, comparé à 300 l'année précédente, selon le Washington Post. Toutes les grandes villes ne peuvent pas se targuer de tels progrès. Ainsi, à Baltimore, grand port de la côte Est, le nombre d'homicides a augmenté, passant de 318 en 2016 à 343 en 2017, selon le Washington Post.
Bagassi Koura. Le passage à tabac de deux policiers dans la banlieue de Paris dans la nuit de la Saint-Sylvestre a soulevé une vague d'indignation en France. Le président Emmanuel Macron a dénoncé un lynchage lâche et criminel. Les agresseurs des deux policiers restent en fuite. Au total, 8 policiers et 3 militaires ont été blessés. Et d'après le ministère de l'Intérieur, 1031 véhicules ont été incendiés et 510 personnes arrêtées.
Le président français Emmanuel Macron se rendra à Pékin, en Chine, le 8 janvier pour une visite d'État de 2 jours. Monsieur Macron, le président chinois Xi Jinping, devrait notamment évoquer les dossiers syriens et nord-coréens.
Et le président syrien Bachar al-Assad a remplacé son ministre de la Défense dans un remaniement ministériel. Il a nommé le chef d'État-major, le général Ali Abdullah Ayoub. Ce remaniement concerne également 2 autres portefeuilles de l'industrie et de l'information.
Au moins 12 civils ont été tués en Syrie dans des frappes aériennes. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces raids ont visé les derniers réduits du groupe État islamique dans l'est du pays.
Rien ne semble se calmer en Iran. Hier, un policier a été tué à la suite des manifestations antigouvernementales qui agitent le pays depuis 6 jours. Ce mouvement de protestation est le plus important depuis la contestation en 2009 contre la réélection de l'ex-président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. John Lyndon.
Au total, 13 personnes, dont 10 manifestants, ont été tuées dans les violences qui ont émaillé ces manifestations parties jeudi de Mashhad, la deuxième ville du pays, pour se propager rapidement à travers le territoire. Au 5e jour de ce mouvement de protestation, un policier a été tué et 3 autres blessés par des tirs d'armes de chasse à Najafabad, selon un site internet de la télévision d'État. Le président Hassan Rouhani, qui avait appelé au calme dimanche, a averti hier que le peuple iranien répondra aux fauteurs de troubles qui ne sont, selon lui, qu'une petite minorité. Les autorités accusent d'autre part des fauteurs de troubles ou des contre-révolutionnaires armés de s'infiltrer parmi les manifestants. Revenant à la charge contre le régime iranien, ennemi juré des États-Unis, le président américain Donald Trump a lui affirmé que le temps du changement était venu en Iran.
La Corée du Sud a proposé de tenir des discussions de haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier. C'est pour améliorer les relations intercoréennes à la suite de la main tendue de Kim Jong-un, qui a évoqué une participation nord-coréenne aux Jeux Olympiques d'hiver.
L'année 2017 a été la plus sûre pour le transport aérien depuis 1946 et l'établissement des statistiques sur les accidents d'avion. L'Aviation Safety Network, un site spécialisé dans ce type de catastrophe, précise que les indicateurs concernent les appareils commerciaux, civils de transport de passagers et de fret homologués pour transporter au moins 14 passagers ou plus. Et le tribunal militaire israélien a inculpé prolongé d'une semaine la garde à vue d'une Palestinienne ayant frappé des soldats israéliens en Cisjordanie occupée.
Et maintenant, la Minute Écho avec Bagassi Koura.
Le gouvernement congolais a présenté la semaine dernière le projet de loi de finances 2018 avec des dépenses en baisse de 7,6% après avoir réduit le budget 2017 de 44%. Le Conseil des ministres a adopté le 27 décembre le budget 2018 qui atteint 1603 milliards de francs CFA en recettes et 1384 milliards de francs en dépenses. Ce projet de loi des finances 2018 prévoit de réaliser un excédent budgétaire chiffré à plus de 200 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le premier centre incubateur, dont le bâtiment a coûté 350 millions de francs CFA, va ouvrir ses portes à Abidjan au premier trimestre de cette année, a indiqué le ministre ivoirien du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarasouba, cité par Fraternité Matin. Ce centre incubateur va permettre aux porteurs de projets et aux entreprises en quête de performance d'avoir des connaissances nécessaires afin de poursuivre leurs activités. Comment se sont comportées les bourses africaines l'année dernière? Eh bien, en 2017, la plupart des actions ont connu une évolution positive, à l'exception de la Bourse régionale des valeurs mobilières en Afrique de l'Ouest, qui concerne les entreprises dans la zone UEMOA. Selon Jeune Afrique, la BRVM, basée à Abidjan, a connu un recul de 20% au 27 décembre, après avoir chuté de plus de 9% en 2016.
Nous passons directement au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le président de la CAF, Ahmad, désigné personnalité sportive de l'année.
C'est le choix du groupe All Africa Global Media, basé à Washington. D'après ce groupe, le Malgache est récompensé pour les initiatives déjà menées depuis son arrivée à la tête de la CAF, notamment la réforme des compétitions majeures dont la CAN, l'organisation du symposium de Rabat, mais surtout l'aide financière accordée aux pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde 2018.
Et Yacouba, nous avons le classement Jeune Afrique 2017 des sélections nationales. Eh bien, le Cameroun est premier sur la liste.
Tout à fait, Eric. Après la RDC en 2016, le Cameroun est le nouveau leader du classement annuel des sélections africaines de Jeune Afrique. Les Lions Indomptables n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde et leur parcours en Coupe des Confédérations s'est arrêté au soir du premier tour. Seul crédit à leur actif et apparemment déterminant pour nos confrères de Jeune Afrique, c'est la CAN 2017 remportée après 15 ans d'attente, alors que le Cameroun était considéré au mieux comme un outsider.
À présent, un coup d'œil sur la Ligue Yacouba, Liverpool a gagné hier sur le field à Burnley.
Tout à fait, Eric. En l'absence de l'Égyptien Mohamed Salah et du Brésilien Philippe Coutinho, blessé, les Reds ont décroché à la 94e minute une victoire précieuse contre Burnley. Un but en toute fin de rencontre du défenseur Ragnar Klavan a sauvé Liverpool du nul, car entre-temps, Burnley a égalisé à la 87e. À noter l'ouverture du score signé Sadio Mané à la 60e. Dans les autres rencontres, Manchester United s'est imposé devant Everton 2-0. Leicester a renoué avec la victoire en infligeant 3-0 au premier Huddersfield. Newcastle est allé gagner à Stoke 1-0.
Toujours en Angleterre, Lukaku sera finalement absent une semaine, Yacouba.
C'est ce qu'a indiqué son entraîneur José Mourinho. L'attaquant de Manchester United a été heurté à l'arrière du crâne samedi dernier lors d'un duel aérien. Romelu Lukaku était alors sorti sur civière avec un casque à oxygène. Plus de peur que de mal, il pourra être aligné le 15 janvier contre Stoke City. Et pour terminer avec vous, Eric, quelques résultats du NBA, le championnat nord-américain de basketball.
La star des Houston Rockets, James Harden, sera absent des terrains au moins 2 semaines en raison d'une blessure. Harden s'est blessé lors de la victoire des Rockets contre les Lakers dimanche soir sur le score de 148 à 142. Il a quitté ses coéquipiers lors du 4e quart-temps après avoir marqué 40 points. Les Rockets ont indiqué que les médecins réévalueraient la blessure dans 2 semaines. James Harden tourne depuis le début de la saison à une moyenne de 32 points, 9 passes décisives, 5 rebonds et 1,8 interceptions par match. Les Houston Rockets sont deuxième de la conférence Ouest derrière Golden State. Et c'est tout pour les sports, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manirakiza. Nous passons maintenant à vos dossiers du jour. Au Mali, la classe politique et les associations de la société civile souhaitent une large concertation avant l'adoption du projet de loi sur l'entente nationale voulue par le président malien Ibeka. Pour lui, cette loi permettra à apaiser les esprits des différents belligérants de la crise malienne, mais surtout faire une réinsertion des combattants qui vont déposer les armes. Les précisions de Kassim Traoré à Bamako.
Pour trouver une solution idoine à la crise malienne, le président Ibeka a changé le fusil d'épaule. Cette année, il veut une loi sur l'entente nationale. Bougouri Mamadou Diarra de l'UMRDA, majorité présidentielle.
Je pense que nous sommes très heureux de cette initiative du président de la République, que le Mali a besoin de paix et de stabilité. Et il ne peut y avoir de paix ou de stabilité qu'à travers de telles initiatives. Et voilà que la venue des ATP a été un symbole. Et maintenant, il est temps que nous nous réveillons. Et ensemble pour le Mali. Pour ceux qui pensent que c'est vraiment encourager la rébellion ou encourager ce genre de choses, ils se disent que non. Et il est temps maintenant que nous dépassions certaines choses.
Le chef de l'opposition malienne a indexé trois réserves majeures sur le projet de loi qui doit être soumis aux députés. Soumaïla Cissé, président de l'URD, membre de l'opposition.
Je ne comprends pas que ça attende la fin du mandat comme une sorte de scoop à la veille des élections. La conférence d'entente nationale n'a pas été un réel succès. La preuve, c'est que la charte dite de réconciliation nationale a été rejetée le lendemain même par le groupe ARC. Et pourtant, il fait référence à cette charte comme étant un socle, une base pour réussir cette entente. La troisième chose, c'est que le processus d'élaboration d'une loi est un processus qui est long, qui est participatif.
Le chroniqueur Abdoulignan divise la poire en deux.
Ce projet va résoudre en partie le problème parce qu'il s'agit de rassurer ceux qui ont pris des armes qu'ils ne seront pas inquiétés et qu'ils trouveront un moyen de se réinsérer et d'avoir une réinsertion surtout économique. Mais ça va créer d'autres problèmes. Bien que le président de la République tente de préciser qu'il ne s'agit pas d'une prime à l'impunité, bien sûr c'est une prime à l'impunité, mais du côté des victimes, pour moi c'est presque une insulte.
La société civile préconise une large consultation des Maliens avant le dépôt d'un tel projet de loi sur la table des élus de la nation. Jimmy Kanté de la société civile.
J'avoue que personnellement, moi j'ai été surpris de voir le président de la République parler de ce projet de loi sur l'entente nationale et j'avoue très sincèrement que j'ai pas bien compris, j'ai certaines inquiétudes. Un président sortant qui finit son mandat dans quelques mois, qui veut initier un tel projet, sincèrement nous, en tant que citoyens, en tant que société civile, nous devons nous concerter et pour mieux analyser cela. C'est une forme d'impunité. Il y a des sous-entendus sous cette volonté.
Les chefs de file de l'opposition malienne trouvent que le projet de loi sur l'entente nationale n'est autre qu'une pratique politicienne. Soumaïla Cissé.
Pour montrer aux électeurs que nous avons enclenché un processus de réconciliation. Je crois que c'est manifestement une manœuvre politique liée à l'élection qui approche. Et le temps n'est pas là, les éléments n'est pas là. Ils ont pour pouvoir élaborer une vraie négociation et obtenir un document de consensus qui tienne compte des victimes, qui tienne compte de la nécessité de ne pas avoir de l'impunité et qui puisse poursuivre ceux qui ont des crimes de sang, qui ont fait des crimes de sang et qui en tout cas les mettent tachés.
Pour que ce projet de loi passe à l'Assemblée nationale, il faudra du temps. Le Parlement malien est actuellement en intercession. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En Mauritanie, le nouvel Ougia, la monnaie mauritanienne, est en circulation depuis hier avec l'émission de nouveaux billets. Désormais, 10 ougias deviennent un ougia. Malgré le jour férié d'hier, les banques étaient ouvertes pour permettre aux populations d'échanger leurs anciens billets contre 10 nouveaux. Mais la transition a été timide. Abdelhaman Dia a joint à Nouakchott le rédacteur en chef du journal Al-Akbar, Mohamed Diop.
On peut résumer aujourd'hui que méfiance, scepticisme, hésitation, c'est ce qu'on a un peu constaté chez les Mauritaniens aujourd'hui. Ben, je me suis rendu dans un restaurant aujourd'hui. La gérante même d'ailleurs refusait de prendre la nouvelle monnaie, donc le client était obligé de payer en ancienne monnaie. Et d'autres même qui prennent ça hésitent parce que chaque fois, ils ont un peu un problème de conversion entre l'ancienne et la nouvelle monnaie. Parce que l'ancienne et la nouvelle, les deux circulent, doivent circuler pendant 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin. Et ça a déjà un impact sur l'ouvrier parce que déjà, les gens ont tendance à convertir l'argent en devises étrangères. Et ça a un peu fait que l'euro, les devises étrangères, prennent un peu plus de valeur par rapport à l'ouvrier.
Comment explique-t-on cette méfiance auprès des populations? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de communication autour de cette transition?
Alors, il y a une sensibilisation. Déjà, la Banque centrale de Mauritanie a mis en place un centre d'appel. Il y a également des affiches dans les lieux de grande fréquentation pour un peu sensibiliser les gens. Mais comme vous savez, c'est qu'il y a un changement de base. Chaque nouveau billet, il y a un zéro de moins. Ça veut dire que s'il y a 1000, ça devient 100 ou 100, mais avec la même valeur. Les gens ont du mal à un peu faire cette conversion, surtout en cette première journée en tout cas.
Est-ce qu'il y avait de l'affluence devant les banques ce lundi?
Alors, il n'y a pas cette affluence devant les banques aujourd'hui parce que c'est un jour serré, c'est le premier jour de l'an. Mais normalement, dans la semaine, il doit y avoir de l'influence.
Quelles peuvent être les implications avec cette nouvelle monnaie?
C'est qu'il y a les perspectives gazières, pétrolières et minières prometteuses qui vont donc générer des enquêtes substantielles en devises qui auront pour contrepartie des émissions en ouvrier importantes à injecter dans une économie liquide où le cash est déjà prédominant. Par conséquent, pour gérer, tracer et sécuriser cette liquidité de manière efficace et efficiente, la mise en place d'un coût de monnaie et système de paiement approprié devient nécessaire pour les gouvernements. Et il y a également, il parle de sécuriser l'ouvrier pour encore lutter contre le blanchiment et éviter la quantité de monnaie en circulation.
Mohamed Diop, le rédacteur en chef du journal Al Akbar à Nouakchott.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans les Grands Lacs, le gouvernement burundais a imposé une contribution volontaire de la population pour financer les élections de 2020. Le président Pierre Nkurunziza veut briguer un nouveau mandat de 7 ans. Le projet de la nouvelle constitution à soumettre au référendum en mai 2018 modifie notamment le mandat présidentiel. L'opposition dénonce un vol organisé contraire à la constitution en vigueur qui ne parle de solidarité nationale qu'en cas de catastrophe nationale. À Bujumbura, les détails de Christophe Nkurunziza.
Une ordonnance présentée la semaine dernière par les ministres de l'Intérieur et des Finances impose au Burundi une taxe obligatoire pour tous les agents de la fonction publique d'une somme variable selon leurs revenus pour la période qui démarre à la fin de janvier 2018 jusqu'à la fin de décembre 2019, à la veille des élections programmées en principe en 2020. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Bandaguié, donne plus de précisions.
Chaque ménage pour les agriculteurs doit payer 2000 francs par an. Pour les jeunes en âge de voter, ils vont payer 1000 francs annuellement. Pour les fonctionnaires qui ont jusqu'à 50 000 francs comme salaire mensuel, ils vont payer 500 francs le mois entre 50 et 100 000. 1000 francs entre 100 et 200 000, ils vont payer 2000 francs mensuels. Entre 200 000 et 1 franc jusqu'à 500 000, ils vont payer 5000 francs burundais. Pour ceux qui touchent entre 5100 et 1 million de francs, ils paieront 30 000 francs mensuels. Mais pour ceux qui touchent plus de 1 million mensuel, il est prévu qu'ils payent l'équivalent de leur salaire pour toute l'année 2018 et 2019.
Cet habitant de la capitale qui travaille à la fonction publique depuis plus de 6 ans indique que son salaire de 100 000 francs burundais, presque 50 dollars américains, ne lui permet pas de lier les deux bouts du mois.
Déjà, on touche un peu d'argent pour vivre les deux bouts du mois. Déjà, on survit, alors on ne sait pas comment on va survivre avec cette décision. C'est injuste parce que déjà, on touche rien. Et si on nous tranche du salaire, on n'aura rien. Nos enfants, pour le déplacement, la vie coûte cher maintenant. Et c'est l'État qui va s'arranger pour chercher d'autres financements sur les fonctionnaires.
Pour les Burundais dans le privé, leur contribution dépendra de leur volonté. Et pour les journalistes, Jean de Dieu Saint-Guillaume va aujourd'hui analyste. Les Burundais qui vivent avec moins de 1 dollar par jour est incapable de cotiser pour les élections. Jean de Dieu Saint-Guillaume va.
Le gouvernement veut imposer aux gens de financer les élections. Or, demander à la population burundaise de financer des élections de 2020 aujourd'hui, c'est demander du lait à une vache qui vient de passer pratiquement 2 ans sans paître. C'est aux populations burundaises de demander au gouvernement de chercher des voies et moyens de les nourrir. Et maintenant, la situation est renversée. Politiquement, le Burundi a disparu de la scène internationale. Le gouvernement devrait plutôt chercher à se réconcilier avec la communauté internationale, avec des bailleurs, des organismes internationaux qui traditionnellement financent ces élections.
Le président Pierre Nkurunziza a lancé cette campagne en août dernier en déposant à la Banque de la République du Burundi 5 millions de francs burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Les femmes de la région des Grands Lacs, pesant plus de 90 kilos, ont désormais une ambassadrice. L'élection de la Miss Ronde régionale a eu lieu à Bukavu, dans l'est de la RDC. Sur place, la correspondance de Ernest Muhiru.
Elles étaient 15 candidates présélectionnées au Rwanda, au Burundi et en RDC pour participer à ces concours de beauté. La particularité, c'est que cette élection concerne les femmes des grandes masses, une initiative de la campagne Chic Madame, coordonnée par Irang Anchombo pour redorer l'image de la femme ronde. Pour elle, aucune femme ne devrait être stigmatisée ou négligée pour son poids.
Le message fort, c'est que il faudrait que les communautés arrêtent avec certaines cultures rétrogrades vis-à-vis de l'image de la femme ronde. Redorons l'image de la femme ronde. C'est une femme belle, elle est intelligente et elle est battante.
Après une série de défilés tantôt en jean, en tenue de soirée, en tenue traditionnelle, mettant en valeur le rondeur, les 15 prétendantes à la couronne ont présenté chacune un projet social à exécuter si elles étaient élues Miss Ronde régionale. Le public exulte. À l'issue de la délibération du jury et après prise en compte du vote du public via le réseau cellulaire Orange, Mademoiselle Jeanne Mboula des Nations congolaise, âgée de 20 ans, remporte la couronne des Miss Ronde de la région des Grands Lacs. Fière de sa victoire, cette étudiante de 95 kilos dévoile son projet social d'ouvrir une boutique d'habillement adaptée aux femmes des grandes masses.
Vraiment, je suis émue. C'est une joie. Ça me donne une fierté. Je dirais aux femmes rondes de se donner du courage, qu'elles ne se sous-estiment pas. Une beauté n'est pas seulement une minceur, mais tout le monde a sa beauté particulière. Nous, c'est la rondeur. Mon projet est de créer une boutique big size et de l'élargir partout au monde. Tous nous savons que partout trouver des habits à grand caractère 3XL, 2XL, c'est un peu difficile. Il faut un peu trop sillonner la ville. C'est pourquoi je voulais un peu créer cette boutique pour qu'on trouve ces genres d'habits. Parce que quand on est ronde et on est chic, je vous assure qu'on n'est pas inaperçu.
La rwandaise Denise Umuhoza est élue première dauphine, suivie de la congolaise Chloé Yasmine comme deuxième dauphine. Assia Nyiramwiza, de nationalité rwandaise pesant 127 kilos, est reconnue Miss Fair Play dès la soirée. Pour Ophélie Kadibouami, cofondatrice de la campagne Chic Madame, l'élection de la Miss Ronde n'a rien de promotion de l'obésité.
Nous ne sommes pas en train de favoriser l'obésité. Il faut bien préciser que nous sommes en train de sensibiliser les autres femmes rondes comme nous, de s'assumer, de se sentir belles dans leur corps, quelle que soit leur taille.
L'activité a été soutenue par la plateforme des autorités locales de la région des Grands Lacs et d'autres partenaires. L'ambassadrice des femmes rondes, élue en séjour, a été couverte de plusieurs cadeaux, dont un chèque de 1 000 dollars américains en francs congolais. Depuis la salle Bodega à Bukavu, Ernest Muhiru, VOA Afrique.
Voilà un morceau pour permettre à ces femmes rondes d'exhiber leur beauté. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Daryl Smith. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique, Eric Manelakis à Washington. Je vous dis, profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. À très bientôt.